va être détaillé, il va être dépiauté dans tous les sens. Le groupe C, ma foi, c'est celui de la France, avec un groupe qui a fait sauter de joie une partie de la rédaction, notamment notre rédacteur en chef, Nicolas Coubeau, puisque la France a tiré le Pérou, le Danemark et l'Australie. C'est bien entendu le Pérou.
Ça
fait, alors voilà, va-t-on avoir ce genre d'emballement sur d'autres plateaux, peut-être, je ne sais pas.
Un tirage a priori favorable. Olivier Giroud, je viens de le voir. Donc ça, effectivement, ça va commencer le
langue de bois, quoi.
Exactement, en disant.
Après, évidemment que a priori il est favorable, ça veut tout dire et rien dire, ce genre de phrase. Après, on va pas non plus survendre, et certainement pas moi. Alors, on en a déjà parlé en off, hein, tous ensemble, enfin à plusieurs. Je sais très bien par avance que le Pérou va être l'équipe de la hype à cette Coupe du Monde. Donc, je m'y prépare, machin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu jouer le Pérou, qui vont en faire l'équipe de la hype. On en a eu une à chaque Coupe du Monde. Je pense que le candidat numéro 1 cette année, c'est le Pérou. Après, évidemment que le groupe est franchement, a priori, à portée pour la France.
Ah oui, mais...
Très clairement. Mais voilà, après, on va pas non plus, je survendrai pas le Pérou non plus, mais je ne laisserai surtout pas passer le fait que le Pérou est un adversaire facile. Ça, clairement pas.
Ah oui, non, mais c'est ce qu'il faut dire. Effectivement, c'est pas insurmontable le Pérou, mais si la France arrive les mains dans les poches en disant bon bah c'est easy, c'est le Pérou et ça fait 3 points, bah ils vont avoir une petite surprise
j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors je sais pas qui sera à ce moment-là face à la France, mais j'attends avec beaucoup d'impatience un duel entre Cueva et Kurzawa, par exemple. Je me régale à l'avance, donc voilà, ce genre de choses là ça me ferait pas mal sourire.
Bah d'autant plus que tu parlais, Nicolas, on a parlé pour l'Iran, on en a parlé pour le Maroc, on en a parlé pour l'Égypte, de travail de fond d'un sélectionneur et d'une fédération sur plusieurs années. Là, pour le coup, voilà, le Pérou, ok, peut-être qu'en termes d'effectifs, de talent, et encore, je dis bien et encore, Pérou peut-être qualifié d'équipe facile à battre, c'est sûr, mais en termes de travail et de cohésion de collectif, si on regarde ses dernières performances sur des Copa América, ou sur les la phase de qualification, les phases éliminatoires, c'est une très belle équipe, et une équipe de guerriers surtout.
Après, oui et non, il y a un mélange, entre les guerriers, je vois que tu penses en pensant aux guerriers. Ouais, mais Farfan n'est pas qu'un guerrier, à côté des guerriers, tu as des mecs, Non, mais tu as des guerriers quand tu penses à Renato Tapia, à Yotun qui est un peu plus dans le combat, à Cristian Ramos derrière. Ça c'est les guerriers. Mais c'est ce qu'on va appeler, c'est ce que je vais appeler le bloc défensif, tu vois. Mais par contre, derrière, je suis content qu'il joue la France pour ces raisons-là, notamment, par exemple, ça va être pour beaucoup l'occasion de découvrir un mec, par exemple, que je kiffe absolument, Edison Flores, qui est un joueur juste merveilleux. Et je suis content que les gens puissent voir ce joueur-là.
Il joue au Mexique, qui joue dans la Liga MX de
Non, il est au Danemark.
Il a joué.
Ah, il est au Danemark maintenant, pardon. Ah,
je ne sais jamais où il est parti. Il est au Danemark. C'est pour ça que c'est assez rigolo de le voir jouer aussi contre le Danemark. Il est au Danemark. Je ne vais pas dire il se perd au Danemark, mais je pense qu'à 23 ans, il mériterait d'être dans un championnat beaucoup plus visible que le championnat du Danemark, sans aucune offense, parce que ce n'est pas le style de la maison, contre le championnat du Danemark. Mais oui, tu disais le travail à long terme, et tu parlais des Copa América. On va faire un point tout simple. Les trois dernières Copa América, le Pérou fait troisième, quatrième. Voilà. Après, on prend ça, on dit ce qu'on veut.
Il faut sortir en quart par.
Je me suis trompé. Sur la dernière, ils se font sortir par la Colombie sans
en
perdre.
En quart, au péno.
En quart. Exactement. Pardon, je me suis trompé. Mais ils font troisième des deux Copa América
précédentes. Ils font troisième des Copa précédentes avec le buteur à chaque fois de la Copa, la personne de Paolo Guerrero. Et j'en profitais d'ailleurs parce que quand j'ai parlé de guerrier, tu n'as cité après que des joueurs défensifs. Quand pour moi, tu peux être un joueur offensif de grand talent et avoir un esprit guerrier, ce qui en l'occurrence est totalement le jeu de Paolo Guerrero.
Sur Paolo Guerrero, Gareca a parlé à la télé colombienne avant le tirage au sort. On lui a posé la question de savoir s'il était confiant, s'il pensait qu'il allait être à la Coupe du Monde. Gareca a balayé ça de revers de la main et il a dit très très confiant, évidemment il sera là.
On rappelle, je rappelle juste pour nos éditeurs, pour rappeler le contexte, que Paolo Guerrero, qui est donc l'avant-centre historique de cette sélection péruvienne de ces Incas et qui est le joueur phare, hein, vraiment un des joueurs, un des plus gros pilier peut-être de cette sélection, offensivement en tout cas, est sous le coup d'une suspension, a des problèmes par rapport à une suspicion de dopage. Ouais. Dans cette même position, hein, il a été contrôlé positif, mais l'enquête tend à prouver, alors bonne foi, mauvaise foi, magouille, je ne sais pas, mais l'enquête tend à prouver que ce serait une erreur liée à un médicament contre la grippe. Si je
non, c'est lié à un thé qu'il aurait pris qui était chargé.
Un thé, tout à fait.
Et alors, par contre, l'enquête n'est pas sur, justement uniquement sur ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même les expertises capillaires qui ont été menées par des labos indépendants qui suggèrent plus que fortement qu'il n'a juste pas pris de cocaïne, parce que c'est le produit incriminé. Hein. C'est un des dérivés de la cocaïne qui a été retrouvé dans ses analyses. Et par contre, il n'y a aucune trace dans les cheveux, ce qui signifie qu'il n'est pas consommateur de cocaïne et ce qui donc confirme l'hypothèse de la contamination à cause du thé. Il est passé devant la FIFA hier. Alors, Gareca a balayé d'un revers de main, il ne veut pas répondre, c'est normal. En tant que sélectionneur, il ne faut pas qu'il prenne position. Par contre, du côté de Guerrero et tout, on estime que, enfin, ils ont l'air d'avoir plus ou moins convaincu la FIFA. On attend la sanction qui doit tomber la semaine prochaine, mais maintenant on est en train de commencer à parler d'un au maximum, on se dit 6 mois, et maximum 6 mois, c'est mai. Donc il est là, quoi. Il sera là pour la Coupe du Monde s'il prend cette, ouais. cette sanction-là.
Nico, pour te compléter sur la coca, pour nos auditeurs qui connaissent pas très très bien le continent sud-américain, faut savoir que la feuille de coca, elle est très 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 utilisée ici, que ça soit en thé, que ça soit tout simplement à mâcher, et que la feuille de coca a des vertus thérapeutiques qui te permettent de lutter contre, enfin, en tout l'altitude. Cas, d'avoir des effets de l'altitude qui sont moins importants. Par exemple, si vous arrivez en avion à La Paz, on va vous donner une infusion de coca ou on va donner de la feuille de coca à mâcher pour éviter de vous sentir mal. Et la feuille de coca permet aussi de couper la faim. Tout simplement, on le donne aux mineurs, notamment pour éviter qu'ils aient faim dans la mine. On leur donne de la feuille de coca à mâcher. Donc voilà, et les tribus indigènes évidemment utilisent la coca en infusion, et c'est commun. Voilà, on va éviter de faire le parallèle entre la feuille de coca et la cocaïne qui est la drogue. Voilà, faut expliquer que la feuille de coca a plein de vertus thérapeutiques, qu'elle est très utilisée sur le continent.
C'est tout à fait, c'est culturel.
Et voilà, et c'est culturel, quoi. C'est pas parce que on prend une infusion de coca que on est drogué, quoi. Voilà, faut remettre les choses aussi à leur place, et que malheureusement, que ce soit une infusion ou un thé à base de feuilles de coca, c'est plausible, quoi, parce que c'est quelque chose qui existe ici.
En tout cas, vous êtes je vais faire une petite pause. Vous êtes une trentaine à nous écouter depuis une bonne heure maintenant. Déjà, merci à tous de nous suivre. Que ce soit maintenant sur le podcast, mais que ce soit sur les autres podcasts, ou que ce soit sur le site, et que ce soit pour les soutiens qu'on a eus et les achats du magazine papier, ma foi. Ouais. Merci à tous de vous suivre, et je vous rappelle que nous sommes disponibles au standard. Non, je rigole, on n'a pas de standard.
Au 36-15.
Vous avez des questions ou des choses, si vous voulez vous exprimer. Tu voulais dire quelque chose, Rodolphe ?
C'est Diego. Ouais.
Diego, pardon.
Non, parce qu'on a parlé du Pérou par rapport à la France, donc plutôt du point de vue français, mais quand même, le Pérou a largement sa chance de se qualifier dans ce groupe-là, quand même. On l'a pas encore dit, ça, mais.
Oui, c'est vrai qu'on le voit, tu as totalement raison, on le voit que.
C'est un bon tirage pour le Pérou.
C'est un très bon tirage pour le Pérou, tu as totalement raison. Le Danemark.
D'accord, après,
je vais juste dire un truc. Le Danemark n'est pas une équipe lucarne opposée. Par respect pour nos confrères indépendants, des autres sites indépendants, on ne va pas aborder le Danemark, on ne va pas aborder l'Islande, la Croatie, parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Pour ça, on vous renvoie notamment pour le Danemark, par exemple, à l'excellent Nordisk, qui est un site indépendant spécialisé dans les équipes et championnats scandinaves, donc ouais. Danemark, Islande, Suède, Finlande, et qui, eux, sauront vous dire tout ce qu'il faut savoir sur et Norvège, bien sûr, sur ces équipes, et donc sur le Danemark, qui sera adversaire de la France, un vieux copain de la France dans les sélections, dans les compétitions officielles. Diego, excuse-moi, tu disais.
Oui, non, parce qu'on a parlé du Pérou comme adversaire de la France, maintenant il faudrait parler des autres comme adversaires du Pérou, et le Pérou, moi je disais que le Pérou avait largement sa chance dans cette poule. Ça peut être considéré comme un bon tirage, donc oui, il y a la France et c'est compliqué, mais se retrouver avec le Danemark et l'Australie, c'est largement faisable.
Non, on est complètement d'accord. Et d'ailleurs, tu as raison de bien le préciser, Il faut bien aussi le préciser à ceux qui nous écoutent, on ne fait clairement pas du Pérou l'adversaire de la France. Le Pérou n'a pas la France comme adversaire pour sa qualification. Les adversaires du Pérou dans ce groupe, c'est le Danemark et c'est l'Australie. Donc voilà, c'est tout. Le match de la France, on va entre guillemets, c'est pas du bonus parce qu'il n'y a pas de match bonus en Coupe du Monde. Hein, tous les points, il faut les prendre. Mais voilà, le Pérou n'a pas vocation à venir jouer la première place de l'équipe de France. Lui, il va chercher. Ça fait 36 ans hein, qu'ils n'ont pas été en phase finale de Coupe du Monde. Donc on va certainement pas arriver en vous disant, les mecs, le Pérou, c'est top 4. Donc non, clairement pas. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, qui vont rentrer en jeu indépendamment des qualités de chaque joueur, des qualités de Gareca, de l'ensemble du groupe. Il y a des paramètres. C'est une phase finale de Coupe du Monde. Cette génération-là ne l'a jamais connue. 36 ans que ce Pérou-là n'a jamais connu la ferveur d'une phase finale de Coupe du Monde. Ils repartent à zéro. Donc ils arrivent comme un petit poussé. Ils vont arriver avec, je pense, parce que c'est aussi les mots généralement de Gareca, et c'est en ça qu'il a aussi transformé le Pérou, avec beaucoup d'humilité par rapport à la compétition et beaucoup de respect par rapport à la compétition. C'est pas anodin hein, de dire ça, parce que le Pérou a souvent eu ces soucis-là. Et voilà, on fait clairement pas du Pérou l'adversaire de la France. Mais je suis d'accord avec toi, Diego. Ils ont une vraie carte à jouer pour la deuxième place, même si, et là, tu as bien fait, Simon, de renvoyer vers notre disque. Moi, personnellement, le Danemark, je ne connais pas. Donc, je les ai jamais vus jouer. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Vous, je le dis très sincèrement, je sais pas ce que vaut le Danemark. Je pense que le Pérou est largement supérieur à l'Australie. En termes au jour d'aujourd'hui, a largement les moyens de battre l'Australie. Par contre, je pense que pour le coup, son vrai adversaire, c'est le Danemark.
D'accord. Ouais. Et bah ma foi, on va passer un petit peu. On a quand même pas mal parlé du Pérou. On laisse donc le Danemark à Nordisk.
Juste pour donner les dates et les heures des matchs.
Vas-y, dis-moi.
France-Australie et Pérou-Danemark, donc ce sera le 16 juin. France-Australie le 16 juin. Alors, j'ai l'heure heure locale pour le Pérou. Je suis sur un site péruvien. Donc, 5 heures du matin, heure du Pérou à Kazan. Et France-Australie, pardon, 5 heures du matin à Kazan, heure du Pérou. Pérou-Danemark le samedi 16 juin à 11 heures, heure péruvienne à Saransk. France-Pérou le jeudi 21 juin à Ekaterinbourg à 7 heures du matin, heure péruvienne. Danemark-Australie le 21 juin à 10 heures, heure péruvienne à Samara. Danemark-France et Australie-Pérou le 26 juin à 9 heures. Donc,
il faut rajouter 7 heures. Pour l'heure française, il faut rajouter 7 heures.
Exactement. Donc voilà, à Moscou, France-Danemark et à Sochi pour Australie-Pérou.
Très bien.
Voilà, voilà pour les dates et les heures. Je ne sais pas si c'est clair.
Mais j'ai une question pour Nico.
Vas-y, Pierre-Marie.
Est-ce que tu penses, Nico, qu'il va y avoir une forte marée péruvienne de supporters qui va déferler sur la Russie ou pas forcément, vu l'enthousiasme et l'ampleur qu'a pris leur qualification?
Écoute, ce qui me fait très très peur, mais je peux l'étendre aux nations sud-américaines, parce que même la Colombie qui a l'habitude de déferler en masse et alors est vraiment en masse partout où elle va dans n'importe quelle compétition, c'est horriblement cher la Russie cette année. Je ne sais pas du tout comment les Sud-Dames vont pouvoir gérer ça, indépendamment de la longueur du voyage, parce que ça c'est pas forcément, mais c'est horriblement cher. Je ne sais pas du tout encore comment ils vont pouvoir gérer ça en termes de supporters. On parle d'un pays qui est pas et les gens sont pas les plus riches du continent, donc j'avoue je m'interroge, mais cette interrogation on peut demander à Pierre pour la Colombie, peut-être un peu moins à Diego pour le Mexique, parce que les Mexicains ont un petit peu, quoi que non, c'est pareil. Je sais pas comment ils vont gérer les coûts astronomiques de cette Coupe du Monde.
C'est vrai qu'on en commence à en parler ici et on se dit que c'est très 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 cher. J'imagine que le pays, les agences de voyage, elles vont, alors même si elles vont essayer de se faire des business. Alors je vous coupe, il y a Pekerman, pardon, qui réagit en direct à la télé colombienne, donc j'écoute ce qu'il dit et je vous ferai le topo après.
Très bien. Et ben du coup on va en profiter. On l'avait dit, on va quand même avancer. On va passer vers par l'Australie, qui est donc le quatrième adversaire des Bleus et probablement le meilleur tirage, un des meilleurs tirages possibles, peut-être avec l'Arabie Saoudite notamment pour le chapeau 4. L'Australie qui est vraiment plus qu'entre deux eaux, elle est entre deux abîmes en ce moment, elle a des gros problèmes de stabilité, on l'a déjà dit pendant le tirage. Comment l'Australie va arriver dans ce groupe? Comment l'Australie va arriver à ce mondial? Pour l'instant, c'est une catastrophe. On rappelle que le sélectionneur, il l'a qualifié tant bien que mal, parce que ça a été très compliqué, Ange Postecoglou, a été démis de ses fonctions juste après le barrage. Diego, je crois qu'on entend encore les gens déménager derrière toi. Merci. Voilà, l'Australie qui a perdu son entraîneur, qui en recherche un autre. Il ne semble pas qu'il ait encore trouver, il y a beaucoup de noms qui circulent, dont celui de Marcelo Bielsa. On sait que Laurent Blanc l'a refusé. Bernès disait ça dans l'équipe aujourd'hui. Comment va arriver l'Australie au Mondial? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de potable du côté des Australiens?
On n'en sait rien, en fait. C'est terrible à dire ça. Je sais que c'est pas bien. Normalement, tu vois, quand tu te la joues, machin, t'es censé tout savoir, machin, bidule. Le problème, c'est que l'Australie, on n'a pas eu de garantie pendant sa phase de qualification. On a vu de très belles choses pendant la Coupe des Confédérations. On a vu des choses moyennes, mais on a vu des choses intéressantes avec Postecoglou et sa fameuse défense à 3. Il était hyper ambitieux en termes de jeu qu'il voulait instiller à son équipe. Il n'a pas forcément les joueurs pour, parce qu'on a vu par moments que ça partait un petit peu en cacahuète. Mais il n'empêche qu'ils étaient capables de mettre en place des choses intéressantes. Ils ont des joueurs très intéressants individuellement. Le souci, c'est que là, ils repartent à zéro. Il n'y a pas d'autre mot. Ils repartent à zéro. Ils étaient un petit peu en chute depuis leur Coupe d'Asie qu'ils ont gagné depuis la Coupe d'Asie. C'était pas extraordinaire dans le jeu. Postecoglou essayait de faire des choses. Mais là, du coup, on va repartir à zéro. Tu l'as dit, il y a des noms qui ont été évoqués. Je sais que je vais pas parler d'une hype, mais il y a deux hommes en Australie qui ont une bonne presse, c'est Graham Arnold, l'entraîneur de Sydney, et Joseph Gambao, qui était très bon boulot quand il était à Adélaïde. Gambao, c'est peut-être un petit peu plus dans l'esprit Postecoglou en termes de comment dirais-je, d'ambition dans le jeu. Donc c'est peut-être un peu plus dans cet esprit-là. Par contre, s'ils vont vers Graham Arnold, on va partir sur autre chose de complètement différent. Et partir sur autre chose de complètement différent quand on est à 7 mois d'une Coupe du Monde.
Ça reste très compliqué. L'Australie ne sait pas où elle va et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le seul atout qu'elle peut peut-être avoir, c'est le fait de justement arriver en étant sous-estimé par tous et n'avoir aucune pression et voilà, jouer tout simplement complètement libéré. C'est peut-être
S'appuyer sur le fait qu'en phase finale, elle est toujours compétitive.
Tout à fait. Et donc, ma foi, on a dit ce qu'il fallait dire. On va avancer, hein, mon Jérôme, mais tu es bien sûr le bienvenu pour commenter les autres groupes. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce groupe de la France avec un Pérou énigmatique, mystérieux, à l'image de ces Incas, un Danemark dont vous saurez tout en lisant les chroniques et les commentaires de Nordisk, du compte Nordisk. Et l'Australie qui est sûrement très probablement le petit pousset, l'équipe la moins à craindre de ce groupe.
Je peux faire une petite remarque sur le Pérou, juste 30
secondes. Vas-y.
Alors je ne sais pas ce qu'a dit Nicolas Kougo auparavant.
Plein de bêtises.
C'est une équipe j'imagine. C'est une équipe qui est très bien organisée pour les avoir vus sur les éliminatoires, hein, sur 3-4 matchs évidemment, les deux principaux contre l'Uruguay, mais qui est limitée quand même. C'est-à-dire que si René. Un peu comme le Costa Rica à la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire que quand ils vont tomber sur un cador, c'est-à-dire une équipe qui potentiellement pourra aller en demi-finale, gagner, etc., ils n'arriveront pas à aller beaucoup plus loin. En attendant, c'est vrai qu'ils pourront faire peur. Si l'équipe de France, par exemple, n'arrive pas avec des certitudes dans le jeu défensivement, dans l'organisation, dans ce cas-là, le Pérou peut très facilement les déranger, oui, tout à fait.
Ma foi, c'est un peu... Tu nous rejoins, en tout cas, sur les commentaires qu'on a eus sur le Pérou. Eh bien, ma foi, on va passer au groupe D. Attention, il y a un sketch qui est passé derrière toi. Attention, on va passer au groupe D. Hein, et ça tombe bien parce que Rodolphe est avec nous. Greg et Greg.